Donc, nous sommes ici avec Yao Agbetse, expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. En dépit de certains développements positifs, vous estimez que depuis votre dernier passage à Genève en mars dernier, la situation des droits de l'homme en République centrafricaine reste préoccupante. En quoi c'est inquiétant?
C'est inquiétant par rapport à l'ampleur des violations des droits de l'homme dans le pays. On a noté, certes, comme vous l'avez souligné, des avancées, mais on a constaté que durant ces 3 derniers mois, il y a eu une certaine résurgence de la part des groupes armés, notamment de la part de la CPC, dont certains éléments, notamment l'UPC, ont attaqué les positions des FACA dans plusieurs régions et commis des exactions sur les populations civiles, que ce soit au nord-est, que ce soit au sud, au centre, partout, on constate qu'il y a une sorte de résurgence en fait des groupes armés et c'est très inquiétant et préoccupant, surtout par rapport aux violations des droits de l'homme que ces groupes armés commettent.
Tout de même, vous relevez qu'il y a une baisse des incidents de pratiquement 40%. Est-ce qu'on peut dire dans ce lot de tragédies, il y a quelque chose de positif?
Je crois qu'il serait exagéré de parler de positif dans ce que vous nommez drame, en fait, dans le pays. La diminution des violations ne veut pas forcément dire amélioration de la situation. Il y a eu, certes, pendant la période considérée, donc durant ce semestre, une certaine baisse, mais on a constaté qu'il y a plus de victimes de violations des droits de l'homme. Donc, comparaison n'est pas raison. On voit certes que par rapport au même semestre en 2021, il y a eu moins de violations. Il y a eu plus de violations, mais le fait est que les populations civiles continuent de subir des violations, que ce soit les violences sexuelles, que ce soit les traitements cruels, inhumains et dégradants, que ce soit l'impossibilité en fait de vaquer librement à leurs occupations parce qu'ils sont constamment en déplacement, ils sont obligés de fuir dans les forêts pour échapper aux attaques des groupes armés.
L'un des volets de votre présentation orale devant le Conseil des droits de l'homme a porté sur les discours de haine, des incitations à la violence. De quoi s'agit-il exactement par rapport à la situation déjà difficile en RCA?
C'est un point qui inquiète particulièrement l'expert indépendant que je suis, parce que nous avons observé, constaté que la désinformation, la mésinformation, les discours de haine, de violence, d'incitation, de manipulation pilulent en fait partout au niveau des journaux, des médias, mais également sur Internet. Et cela est constaté au niveau de l'ensemble, presque l'ensemble des acteurs, que ce soit étatiques et non étatiques. Directement ou indirectement, certains groupes sont parrainés et qui voilà, véhiculent ce genre de messages. Et je crois que ça empoisonne la qualité de la relation que les autorités centrafricaines devraient entretenir avec les partenaires techniques et financiers, avec la population civile, et pour assurer en fait un climat propice à la marche vers la paix et à la réconciliation. Je constate que du fait de cette désinformation qui, à mon avis, se généralise, il est important que les autorités centrafricaines prennent leurs responsabilités, parce qu'il appartient en fait aux autorités de mettre un terme à ce phénomène. Et je crois que l'une des solutions possibles à mettre en œuvre est de donner les moyens juridiques et technologiques appropriés au Conseil de la communication, donc qui est un organe national indépendant en charge de faire le monitoring des messages sur les médias, mais également sur Internet, de pouvoir faire son travail de monitoring effectivement. Et je crois aussi que la sensibilisation citoyenne, un engagement ferme de la part des autorités par rapport sur une approche pédagogique envers la population pour renoncer, pour s'abstenir de ces discours de haine, de violence, de désinformation qui, à mon avis, n'est pas propice justement pour entamer ou amorcer ce processus de réconciliation avec la CVJRR.
Mais quand vous dites que cette désinformation est parrainée, donc on imagine que c'est par certains démembrements, mais ces critiques sont adressées de façon exacte.
Je crois que l'ensemble des acteurs recourent, presque l'ensemble des acteurs recourent à la désinformation, soit pour se donner une bonne image et renvoyer une mauvaise image de l'autre. Et je crois que c'est pour ça que j'ai dit que la désinformation est aussi l'œuvre des acteurs étatiques comme non étatiques. On peut constater, on a vu, analysé, en tout cas recouper beaucoup d'informations concordantes qui convergent vers le fait que certaines entités ne recoupent pas directement, mais passent par certaines d'autres entités pour pouvoir faire passer des messages de désinformation, des messages de violence et de haine.
Mais beaucoup d'observateurs lient cette campagne de désinformation avec l'arrivée des forces bilatérales à Bangui. Est-ce que quelque part, quand vous demandez à l'État centrafricain de lutter contre cette désinformation, ce n'est pas tout de même faire preuve de un peu de, pour ne pas dire entre guillemets, un peu de naïveté?
Les forces bilatérales ne sont pas des sujets de droit international. Aux yeux du droit international, les forces bilatérales ne sont pas reconnues comme entités du droit international. La seule entité reconnue, c'est l'État centrafricain qui a signé, ratifié l'ensemble des conventions. Et donc, il revient aux autorités centrafricaines d'assumer leurs responsabilités en mettant un terme justement à ce phénomène qui n'est pas de nature à favoriser justement le processus de paix en cours, à faire en sorte que le processus transitionnel puisse aboutir jusqu'à son terme à des résultats que nous souhaitons tous, des résultats probants.
Vous relevez dans votre présentation orale devant le Conseil un système de désinformation qui semble très rodé. Cela se manifeste comment au quotidien?
Au quotidien, c'est des informations qu'on a sur les réseaux sociaux tendant à vilipender une position donnée, tendant à vilipender une entité donnée, des messages, des images, voire des manifestations qui sont dirigées contre une entité donnée, contre des personnes qui visent même des personnes. Et je crois que cela n'est pas de nature, une fois encore, à permettre à ce que le pays puisse évoluer dans la bonne direction. Ça se manifeste dans les médias, les médias classiques, au niveau des radios, au niveau de la presse écrite, mais surtout au niveau des réseaux sociaux. Et donc, une fois encore, je dis que presque tous les acteurs y recourent, que ce soit étatique ou non étatique. Et je crois que surtout les acteurs étatiques doivent, à mon avis, faire en sorte que cette situation cesse le plus rapidement possible.
Et second volet de cet entretien, c'est par rapport à la lutte contre l'impunité. Vous demandez à Bangui de l'élever au rang des priorités gouvernementales. Mais quand on voit comment le dossier Hassan Bouba à la Cour spéciale a été géré, y a-t-il des raisons de rester optimiste?
La situation sur le terrain de la lutte contre l'impunité est une question de préoccupation. Certes, lors de son discours d'investiture, le chef de l'État, le président Touadéra, a clairement mentionné l'impunité comme étant l'une des priorités de son gouvernement. Mais dans les faits, on constate que beaucoup d'efforts restent encore à faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Vous venez de mentionner l'affaire Hassan Bouba, notamment le fait que Hassan Bouba ne soit pas remis jusqu'à ce jour à la Cour pénale spéciale est très inquiétant. Parce que la Cour pénale spéciale a entamé sa procédure avec M. Hassan Bouba, contre qui un certain nombre de faits ont été allégués. Je voudrais ici réitérer la nécessité pour les autorités centrafricaines de lutter de manière efficace et continue par rapport à la question de l'impunité et de remettre sans délai M. Hassan Bouba à la CPS.
À votre avis, remettre Hassan Bouba à la Cour spéciale serait un signe de bonne volonté de Bangui?
Je l'ai dit déjà dans mon intervention auprès du Conseil en mars dernier, ce sera un signe, un symbole fort de la part des autorités, une réponse par rapport à la soif de justice de la part de la population, qu'il a exprimé à plusieurs reprises, que ce soit lors du forum de Bangui, que ce soit lors des différentes consultations organisées par l'État. Et d'ailleurs, tout récemment, au niveau du dialogue républicain qui a eu lieu, la population a clairement exprimé sa volonté de voir l'impunité comme sujet thématique prioritaire au niveau du gouvernement.
Toujours sur le dossier de la justice, qu'en est-il de la situation de ces casques bleus accusés de violences sexuelles ou bien de ces forces bilatérales russes notamment aussi accusées de violation des droits humains?
D'abord, deux choses. Par rapport aux forces bilatérales, les forces bilatérales russes ont combien un certain nombre de violations d'agressions sexuelles. Cela a été documenté par la commission spéciale mise en place par l'État centrafricain en mai 2021 et qui a conclu que les éléments des forces bilatérales ont commis des violations sexuelles. Et évidemment, il appartient aux autorités centrafricaines de prendre les mesures nécessaires pour que justice soit rendue aux victimes. Il appartient également aux autorités russes de prendre leurs responsabilités en diligentant de manière prompte les poursuites nécessaires contre les personnes qui sont soupçonnées. Par rapport au casque bleu, au niveau de la MINUSCA, il y a une politique de tolérance zéro vis-à-vis des violences sexuelles. Il y a un programme qui est en place pour pouvoir justement lutter contre ces violences sexuelles. Malgré cela, on constate qu'il y a certains castes bleus qui continuent de commettre des violations sexuelles sur les populations civiles. C'est le cas, par exemple, du contingent gabonais qui a été soupçonné d'avoir commis des violations sexuelles sur un certain nombre de filles et décision a été prise de les rapatrier immédiatement. Mais il appartient maintenant aux autorités gabonaises de mener les enquêtes nécessaires pour faire en sorte que les personnes qui font l'objet de ces allégations puissent justement répondre de leurs actes.
Dernier volet de cet entretien, c'est la situation socio-économique avec les appuis budgétaires de la Banque mondiale et de l'Union européenne de 2021 qui n'ont pas été décaissés. Vous dites que si la situation critique actuelle se poursuit, la RCA court le risque d'un péril, d'un effondrement. Soyez beaucoup plus clair. En quoi tout cela est un peu dangereux pour la situation politique, même socio-économique de ce pays?
Par rapport à cette situation, je voudrais être extrêmement clair. Je suis très préoccupé par cette situation parce que l'appui budgétaire qui représente à peu près 5% du PIB et qui devrait provenir de la Banque mondiale et de l'Union européenne, n'a pas été décaissé en 2021. Ce qui veut dire qu'il y a un déficit en termes de ressources de la part de l'État pour mener l'ensemble des services publics, pour conduire l'ensemble des services publics. Ce retard devait être comblé en 2022 par rapport au décaissement de l'appui. Malheureusement, jusqu'à présent, l'appui budgétaire n'a pas été décaissé. Et les principaux partenaires techniques et financiers que sont l'Union européenne, la Banque mondiale et le FMI se fondent sur le fait qu'un certain nombre de critères, de conventions convenues avec les autorités centrafricaines n'ont pas été respectés, notamment par rapport à la transparence en ce qui concerne la question de la sécurité. De l'autre côté, je constate que le non-décaissement de l'appui budgétaire pèse sur les populations civiles. Et je crois que si cet appui budgétaire n'est pas décaissé, il y a un fort risque que le pays court à l'effondrement, justement, comme vous l'avez souligné. Et cela peut entraîner des troubles sociaux. Cela peut entraîner une résurgence des groupes armés, comme on le constate maintenant. Cela peut entraîner aussi un flux migratoire massif au niveau de la sous-région, mais également vers l'Europe. Cela peut entraîner un effondrement complet de l'État centrafricain.
Mais y a-t-il des signes avant-coureurs que vous avez constatés, surtout lors de votre dernier passage à Bangui et dans les régions?
Aujourd'hui, on voit une pénurie de carburant dans le pays. Ce n'est pas forcément la cause principale, mais c'est une manifestation des difficultés que rencontre le pays en termes d'approvisionnement, par exemple, de carburant. Et il me semble important, et j'en appelle aujourd'hui à l'Union européenne, au FMI et à la Banque mondiale, d'intégrer dans leurs considérations macroéconomiques des éléments relevant des droits de l'homme. Les droits de l'homme qui constituent le troisième pilier des Nations Unies et de faire en sorte que les sanctions financières et économiques ne pèsent pas sur les projets sociaux, les projets humanitaires, les projets de développement et que les sanctions, aussi justifiées soient-elles, n'empêchent pas la fourniture de services aux populations civiles, que ce soit en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'électricité ou en matière de services à la base.
Dernière question. La RCA essaie de se relever, le conflit perdure depuis quelques années. Mais aujourd'hui, qu'avez-vous envie de dire à ce jeune garçon de PK5 à Bangui, à cette jeune écolière de Bossangoa, par rapport à la situation qui prévaut dans ce pays? Vous lui dites quoi?
Je dis que l'analyse de la situation m'a poussé à proposer à la communauté internationale d'investir davantage dans l'éducation, la formation technique agricole et la formation professionnelle. Parce que je suis convaincu que le processus transitionnel sur le plan politique qui est en cours ne peut être valablement conduit si on n'intègre pas cet aspect de justement des droits économiques, sociaux et culturels. L'éducation doit constituer, à mon avis, un pilier de l'action de l'État, un pilier de l'action des partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi je voudrais ici réitérer aux habitants de Bangui, de PK5, à Bossangoa, à Bria, à Obo, dans l'ensemble du pays, que j'appelle les autorités centrafricaines, l'ensemble de leurs partenaires, la communauté internationale à écouter le cri de détresse et d'angoisse de la jeunesse centrafricaine et en faire en sorte que des investissements massifs soient apportés pour que l'éducation, le système éducatif qui est aujourd'hui délabré, puisse être relevé en insistant justement sur la formation professionnelle afin de permettre l'entrepreneuriat jeune et de faire en sorte qu'on puisse trouver une solution au chômage qui frappe les jeunes, que ce soit à Bangui, mais également dans l'arrière-pays.
Merci beaucoup. Merci infiniment.
Merci à vous.